Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous, vos oreilles sont branchées sur l'AFP. Vous écoutez Fragments d'Amérique, le podcast de la rédaction aux États-Unis. Je suis Antoine Boyer, ravi d'être à vos côtés pour ce 7e numéro enregistré en juin 2019.
If this ban was in effect back then, when I needed my abortion,
je sais que je n'aurais pas supporté de garder l'enfant de mon violeur. Donc si cette loi avait été en vigueur à cette époque, j'aurais soit eu recours à un avortement clandestin,
some sort of unsafe.
Soit j'aurais mis fin à mes jours, pour être honnête.
Or I would have ended my life, if I'm being frank.
En Alabama, l'avortement est désormais interdit, même en cas de viol ou d'inceste. Si elle n'est pas encore appliquée, cette loi symbolise bien l'offensive de plusieurs États conservateurs depuis le début de l'année. Autre exemple, l'IVG est désormais interdite après 6 semaines de grossesse dans 5 États, dont la Louisiane. Alors pourquoi maintenant? En nommant 2 juges conservateurs à la Cour suprême, Donald Trump a fait basculer le temple du droit américain dans le camp conservateur. Galvanisés, les anti-avortements espèrent renverser l'arrêt historique de la Cour suprême, Roe v. Wade, ayant légalisé l'avortement en 1973. Dans cet épisode, nos journalistes vont vous raconter et décrypter une lutte qui déchire l'Amérique.
So that we can keep making America great again.
Charlotte Plantive, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu es journaliste à l'AFP à Washington, chargée de la Cour suprême et des questions juridiques. Et tu t'es rendue à Saint-Louis récemment, où le sort de la dernière clinique de l'État du Missouri qui pratique l'avortement est toujours en suspens dans l'attente d'une décision judiciaire. Qu'est-ce qui t'avait marqué sur place dans le Missouri? Il me semble que tu avais parlé à beaucoup d'anti-avortement.
Oui, alors je pense que c'est pas propre au Missouri, mais c'est la première fois que je le vivais. C'est la permanence des anti-avortements devant les cliniques. C'est-à-dire que c'est très organisé. Il y a des militants anti-avortement qui font le pied de grue absolument tout le temps, probablement pas la nuit, mais dès que la clinique est ouverte. C'est très, très professionnel. Il y a des jeunes femmes qui sont vêtues de gilets, un peu de gilets de chantilly, on dirait des gilets jaunes en France. On pourrait croire qu'elles font partie de la structure, si bien que quand les gens arrivent à la clinique, elles peuvent avoir l'impression qu'elles sont là pour les diriger. En fait, elles sont là pour distribuer des prospectus qui renvoient vers des structures, comment appelle-t-il ça, des centres de grossesse qui sont censés les décourager d'avorter.
Est-ce qu'il y a plusieurs types de militants anti-avortement parmi ceux que tu as rencontrés?
Ah oui, alors il y a une différence entre ceux qui se disent ouvertement old school, qui sont beaucoup plus dans l'image qu'on avait auparavant, des gens qui peuvent s'enchaîner aux grilles, qui publient des photos de fœtus avortés, qui sont beaucoup dans la stigmatisation, dans l'image choc, dans le discours choc, qui n'hésitent pas à utiliser des termes vraiment terribles sur l'IVG, comparant ça à des meurtres de masse, etc. Et il y a tous ceux qui sont plus professionnalisés, qui jouent la carte de la compassion, de l'aide auprès des femmes, beaucoup plus soft, qui veulent moins choquer. Alors parmi les autres choses que j'ai remarquées dans le Missouri qui m'ont marquée, c'est juste en face de la clinique, quasiment à 50 mètres, il y avait un bus garé, un très beau bus coloré avec une femme souriante en photo dessus. Et en fait, à l'intérieur, ils font des échographies. Ils proposent aux femmes des échographies gratuites. Le but, c'est qu'elles entendent le battement de cœur du bébé et que ça leur brise le cœur et qu'elles renoncent à avorter.
Et elles te disent que ça marche ?
J'ai rencontré une femme qui était très contente parce que la veille, elle avait fait pleurer une jeune femme qui renonçait à son avortement.
J'ai reçu une femme de 20 ans hier qui avait un rendez-vous avec eux aujourd'hui. Elle l'a annulé parce que je lui ai montré à quoi ressemblait son bébé. Elle a commencé à pleurer et elle va le garder.
Quand tu avais écrit cet article, cette dépêche sur les anti-avortements, c'est moi qui l'avais relu et tu étais venu me voir pour me demander si c'était assez équilibré. Qu'est-ce que tu voulais éviter ?
Alors, je voulais éviter la caricature et je craignais que les personnes qui soient venues devant la clinique ne soient pas forcément les plus représentatives de leur combat, parce qu'il y avait quand même des personnes qui étaient assez caricaturales. Une femme qui se vantait d'avoir élevé 15 enfants et d'avoir été arrêtée à plusieurs reprises et qu'on était très contente, qui parlait de blitz sur des cliniques comme si ça avait été des faits d'armes, alors que c'est tout simplement illégal. Donc je ne voulais pas donner une image caricaturale. En même temps, ce sont des gens qui existent. Et puis c'est un débat qui porte quand même aussi sur le choix individuel qui n'est pas forcément dans leur bouche.
L'avortement tel qu'on le connaît tue déjà des bébés. Et l'avortement, vraiment, a fendu le cœur de l'Amérique et du monde entier.
Parlons maintenant des militants pour l'avortement. On les entend beaucoup ou finalement pas tant que ça en fait ?
Si, si, on les entend. Ils ont manifesté. Les États-Unis, c'est pas un pays où il y a des énormes manifestations. Hein. C'est pas tout le monde manifeste pas tout le temps. Pour l'instant, ça reste de la menace lointaine. On n'en est pas encore à la Cour suprême. Je pense que si ça venait vraiment à la Cour suprême, il y aurait plus de monde. Mais à Saint-Louis, c'était quand même. Je sais pas. Je suis pas très bonne pour évaluer, mais il y avait plusieurs milliers de personnes, je pense, qui manifestaient pour protéger la clinique. Donc, si, si, quand même, les gens se sont mobilisés. C'était en semaine. C'était pas si évident que ça.
Katie Schubauer, bonjour.
Bonjour Antoine.
Tu es journaliste vidéo à l'AFP à Washington et tu es allée avec Charlotte Plantive à Saint-Louis dans le Missouri récemment. Y a-t-il un moment qui t'a particulièrement marqué dans les manifestations pro-avortement là-bas ?
Quelque chose que j'ai entendu au meeting qui était assez intéressante, c'était un homme qui dit que voilà, moi je suis contre l'avortement et je ne veux pas du tout que mes filles ont des avortements quand elles sont plus âgées. Mais voilà, je pense que même que je ne veux pas qu'elles aient des avortements, c'est pas ma choix de décider, c'est pas mon corps. Il a dit, je pense que je peux être anti-avortement, mais pro-choix. C'était intéressant parce que le Missouri comme État, c'est assez conservatrice, mais St. Louis, c'est une grande ville qui était plus à gauche. Donc, c'était un intéressant petit exemple des États-Unis en général. Et en fait, beaucoup, beaucoup de ces militantes anti-avortement, ils étaient très jeunes. Donc, ce n'est pas comme, voilà, tu as cette partie de la société qui est plus âgée et qui va, ses idées va terminer après leur décès. Ça va continuer. Ça, tu as des personnes très très jeunes qui sont anti-avortement hyper fortement. Quand j'ai couvert cette truc, le March for Life ou Marche pour la vie, qui est un rassemblement à Washington chaque année avec beaucoup de militants anti-avortement. Et je pense que j'ai vu dans le Washington Post, ils ont estimé que la moitié de militants là-bas avaient moins de 30 ans.
Tout le monde a un être cher qui a vécu un avortement à un moment de sa vie, qu'on le sache ou pas. Que ce soit votre tante, votre sœur, votre cousine, votre fille. Et je trouve que le fait qu'ils tentent de nous enlever ce droit, c'est juste totalement horrible.
Est-ce que tu peux me dire où on se trouve en ce moment ?
Nous sommes devant la Cour suprême, donc c'est un monument qui se visite. La Cour n'a pas de session aujourd'hui, donc les juges travaillent, mais derrière des bureaux fermés et ne sont pas en train de siéger. Voilà, il y a des gardes qui surveillent, une fontaine qui coule.
L'avortement, il est légal aux États-Unis ?
Alors, l'avortement est légal depuis 1973 grâce à la Cour suprême, ou à cause de la Cour suprême, selon l'opinion. Il n'y a pas de législation fédérale sur l'avortement, ce n'était pas un droit, donc les États faisaient tout ce qu'ils voulaient jusqu'en 1973. Donc certains l'autorisaient, d'autres l'interdisaient. Et en 1973, la Cour suprême a dit que c'était un droit pour les femmes, que c'était un droit qui devait s'appliquer sur tout le territoire américain, et a autorisé les États à légiférer que pour des questions qui ne posaient pas d'obstacles en fait pour la mère. Ils pouvaient légiférer comme ils légifèrent sur toutes les questions de santé, pour réguler le fonctionnement des hôpitaux, etc., mais pas pour entraver cet accès à l'avortement auquel les femmes ont droit jusqu'à ce que leur fœtus soit viable, ce qui est considéré, selon les avis médicaux, autour de la 24e semaine de grossesse.
Pour comparer avec la France, en fait, aux États-Unis, l'accès à l'avortement est beaucoup plus grand.
Oui, puisqu'en France, on est à 12 semaines de grossesse et qu'aux États-Unis, normalement, telle qu'elle est, elle est censée s'appliquer, la jurisprudence de la Cour suprême permet d'avorter relativement facilement jusqu'à 24 semaines de grossesse. Les États plus conservateurs ou la droite religieuse est plus importante ont toujours pris des mesures pour essayer de restreindre l'accès à l'avortement. Mais là, ce qu'on voit et qui est très nouveau depuis le début de l'année, c'est qu'ils prennent des lois qui sont en contradiction flagrante avec la jurisprudence de la Cour suprême. C'est-à-dire que leurs lois, en théorie, sont illégales. La Cour suprême autorise les femmes à avorter jusqu'à ce que le fœtus soit viable. Les lois récentes soit interdisent complètement aux femmes d'avorter, comme dans l'Alabama, soit leur interdisent d'avorter à partir du moment où le battement de cœur du fœtus est détectable, ce qui revient à peu près à 6 semaines de grossesse. La plupart des femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes à ce stade. Ou dans un état à 8 semaines de grossesse. C'est pareil, c'est très tôt dans la grossesse.
Est-ce que tu peux me prendre peut-être la loi emblématique, la loi dans l'Alabama qui a été passée ? C'est la loi la plus restrictive ?
La loi de l'Alabama, elle est non seulement la plus restrictive, elle l'interdit totalement. En fait, on a dit la plus restrictive, mais en fait, c'est une interdiction d'avorter, purement et simplement, avec, pour les médecins, pas pour les femmes, mais pour les médecins qui pratiqueraient des avortements, des peines de prison pouvant être très lourdes. Donc là, c'est clairement en contradiction flagrante avec la Cour.
C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'exception en cas de viol ou d'inceste, c'est ça ?
Même pas d'exception en cas de viol ou d'inceste. La seule exception, c'est si la vie de la mère est en danger.
Est-ce que tu peux me faire un peu une cartographie de l'Amérique face à l'avortement ?
Sur la question de l'avortement, l'Amérique est divisée en deux. Il y a vraiment le sud et le centre où les législateurs ont mis des bâtons dans les roues à tous les partisans de l'avortement, au point qu'il y a 6 de ces États où il n'y a plus qu'une seule clinique qui pratique des IVG. Et les côtes, qui sont beaucoup plus ouvertes sur la question, au point qu'en Californie, il y a 150 cliniques où il est possible d'obtenir une IVG.
Charlotte, ces lois limitant drastiquement l'accès à l'avortement, elles n'ont aucune chance d'être appliquées ?
Elles vont se faire, en toute logique, retoquer en justice. Les tribunaux fédéraux vont annuler ces lois, vont les bloquer, vont leur interdire d'entrer en vigueur. Ça a déjà été le cas pour 2 ou 3 d'entre elles. Normalement, ce que prévoient leurs auteurs, c'est de faire appel, puis de refaire appel puisqu'ils devraient reperdre, et d'arriver jusqu'à la Cour suprême. La Cour suprême ne sera pas obligée de se saisir des dossiers. C'est elle qui choisit les dossiers qu'elle veut entendre. Donc il faut que sur les 9 juges, il y en ait 4 qui veulent se saisir d'un dossier pour qu'elle s'en saisisse. Elle reçoit des milliers de dossiers par an et elle n'en étudie que 80.
Est-ce que tu penses qu'à terme, ou en tout cas dans les prochaines années, il y a une chance que ce dossier, que l'accès à l'avortement arrive devant la Cour suprême ?
Alors oui, pas forcément sur les lois les plus offensives actuelles, plus sur des restrictions posées à l'accès à l'avortement et qui donc aujourd'hui peuvent être limites et qui peuvent gagner une fois en justice, perdre une fois en justice selon les juges qui s'en saisissent. Donc là, s'il y a un désaccord au niveau des tribunaux, la Cour suprême sera plus ou moins obligée de s'en saisir. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas exactement où il y a 2 juges classés conservateurs parce qu'ils ont été nommés par des présidents républicains dont on ne sait pas trop où ils se situent. Le juge Roberts, qui est le chef de la Cour suprême, qui dans le passé a laissé entendre, enfin a parfois voté plutôt avec les anti-avortements, mais qui est quelqu'un qui est très attaché à l'image de la Cour, à la légitimité de la Cour et à la stabilité du droit. Et donc, qui pourrait vouloir éviter que la Cour suprême soit vécue comme changeant d'humeur avec le ton politique ou l'ambiance politique. Et pour garder la légitimité de la Cour, il pourrait s'abstenir de voter avec les conservateurs. Et l'autre inconnu, c'est le juge Brett Kavanaugh, qui est arrivé en octobre, qui a été nommé à l'issue d'une saga politique qui a déchiré l'Amérique, qui a été choisi par Donald Trump. Donald Trump avait promis pendant la campagne de choisir que des juges opposés à l'avortement. Brett Kavanaugh n'a jamais dit qu'il était opposé à l'avortement, mais du fait qu'il ait été choisi par Donald Trump, il y a quand même des fortes suspicions. Donc voilà, c'est les 2 grosses inconnues. Si l'un des 2 vote avec les 3 autres qui sont plus clairement conservateurs, le sujet pourrait revenir vite. Sur la menace actuelle, en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent que beaucoup de choses vont se jouer lors de la prochaine élection. Parce que pour l'instant, on a 5 juges conservateurs et 4 juges progressifs, mais 2 conservateurs dont on ne sait pas trop où ils se situent. Dans les juges progressifs, il y en a 2 qui ont plus de 80 ans. Si Trump est réélu, ils ne tiendront pas jusqu'à la fin de son deuxième mandat. Donc, ils seront remplacés par 2 autres conservateurs. Et là, la liste des candidats potentiels qui circulent dans les médias, ce sont des gens qui sont très clairement anti-avortement. Et dans ces cas-là, l'arrêt Roe versus Wade a toutes les chances d'être supprimé.
Bonjour Jérôme Cartillier.
Salut Antoine.
Tu es le correspondant de l'AFP à la Maison Blanche. Quel est l'avis du locataire de la Maison Blanche sur l'avortement, Jérôme ?
Alors, il a aujourd'hui un avis très tranché. Il a fait un virage à 180 degrés. Hein. Donald Trump, historiquement, était pro-choice, c'est-à-dire favorable à l'avortement. Il l'avait dit clairement, notamment dans un entretien télévisé.
Je suis très favorable au droit d'avorter. Je déteste le concept de l'avortement. Je déteste tout ce que cela signifie. Ça me révulse quand j'entends des gens débattre du sujet, mais je crois toutefois au droit de choisir.
Et puis, il a fait un revirement, bien avant, quand même plusieurs années avant de se lancer dans la course à la Maison Blanche. Et il est aujourd'hui ce qu'on appelle pro-life aux États-Unis, c'est-à-dire assez largement opposé à l'avortement, sauf dans des cas extrêmes. Mais globalement, il a pris un positionnement très frontal sur ce sujet-là. Donald Trump, il a fait un calcul très clair quand il s'est lancé dans la course à la Maison Blanche. La plupart de ses positions étaient connues sur l'immigration, sur un ras-le-bol vis-à-vis de la Chine ou des autres puissances qui selon lui, abusent des États-Unis sur le plan commercial. Sur l'avortement, il était plus discret, mais il a fait un pari tranché pour essayer d'arriver à la Maison Blanche, c'est de s'assurer du soutien total et sans faille de la droite chrétienne, et notamment du mouvement évangélique. Et ce mouvement-là est très sensible à une question, entre autres, c'est cette question de l'avortement. Donc, du moment où il a décidé de prendre cet axe-là, il en a fait un cheval de bataille, si je puis dire. C'est la raison essentielle pour laquelle il a choisi comme vice-président Mike Pence, donc qui appartient à cette mouvance évangélique, qui n'était pas très très en vue avant la présidentielle, mais qui lui assurait le soutien sans faille de cette frange de l'électorat.
Est-ce qu'il leur fait quand même une promesse de mettre fin à l'avortement ou il ne peut pas aller jusque-là ?
Non, il n'a pas fait cette promesse-là. Il n'a pas fait cette promesse-là, mais il distille le message d'un changement de posture au plus haut niveau sur ce sujet-là.
Il s'est même exprimé à la tribune via vidéo de la March for Life, qui est quand même le gros rassemblement annuel des anti-avortements. C'est quand même un message fort envoyé, non ?
Absolument, et ça correspond tout à fait à cette idée de message ciblé au bon moment pour s'assurer de la fidélité de cette base électorale.
Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'immense fierté d'être le premier président à être avec vous ici, à la Maison Blanche, pour m'adresser à la 45e Marche pour la Vie. C'est très, très spécial. Grâce à vous, des dizaines de milliers d'Américains sont nés et ont atteint tout le potentiel que Dieu leur avait donné, grâce à vous.
Il choisit ces moments, ils sont pas très fréquents, mais là évidemment c'est le grand rendez-vous de l'année à Washington, c'est une tradition. Et à ce moment-là, il envoie un message clair, ciblé, qui intéresse ce public-là pour leur dire « comptez sur moi ».
Finalement, les militants pour l'avortement, ils sont en réalité plus effrayés par Mike Pence que par Donald Trump.
Absolument, en tout cas le plus idéologue des deux, c'est incontestablement Mike Pence, mais Donald Trump le soutient et a clairement besoin de son soutien s'il veut obtenir un deuxième mandat de 4 ans en novembre 2020.
Justement, selon toi, la question de l'avortement, ça va être un sujet clé de la présidentielle 2020 ?
Non, je dirais pas un sujet central, mais je pense que ça va revenir de manière récurrente. C'est un sujet clivant et c'est un sujet qui peut potentiellement être utile aux républicains pour tenter de discréditer ou en tout cas d'attaquer leurs adversaires démocrates. Je pense pas que Donald Trump va le mettre au cœur de sa campagne. Non, il y a des sujets qui lui tiennent beaucoup plus à cœur.
Élodie Cuzin, bonjour.
Bonjour.
Tu es reporter pour l'AFP à Washington en charge de la politique américaine et tu suis la campagne des nombreux candidats démocrates à l'investiture du parti. Et tous ou presque étaient en Caroline du Sud samedi 22 juin et tu étais avec eux. Quel était le thème de ce rassemblement dans la ville de Columbia ?
Il y a eu une grande conférence sur l'avortement. Vraiment, c'était le cœur de leur rencontre. Et du coup, Planned Parenthood, qui est la grande organisation de planning familial américain, avait organisé toute cette journée de conférence avec une vingtaine de candidats qui sont passés les uns après les autres devant des membres de Planned Parenthood, donc en majorité des femmes, pour d'abord présenter leur programme sur cette question. Il y a eu aussi plusieurs témoignages, notamment une dame, je crois que c'était au moment de Beto O'Rourke, qui racontait comment elle avait tenté d'avorter parce qu'elle était tombée enceinte à un moment où c'était trop compliqué et difficile pour elle. Elle était seule. Elle a raconté dans des termes très graphiques comment elle avait essayé d'avorter en se jetant par les escaliers, en avalant de la javel. On sentait le silence dans toute la salle. C'était très dur à écouter. Elle a raconté comment elle a finalement eu son fils, comment elle l'adore, mais comment depuis ce jour-là, elle se bat pour que les femmes n'aient pas à passer par ce genre d'épreuves.
Et Joe Biden, pourquoi il était particulièrement attendu à cette conférence ?
Alors Joe Biden, ça tombait, le timing tombait très bien ou très mal pour lui, parce que cette conférence était organisée juste quelques jours après un revirement très remarqué de l'ancien vice-président sur un amendement controversé aux États-Unis qui empêche d'utiliser des fonds fédéraux pour financer l'avortement. Joe Biden, qui est un catholique pratiquant et qui a défendu au nom de sa foi son soutien à cet amendement depuis 30-40 ans, est revenu sur ce soutien en déclarant qu'il était plus opposé à ce qu'on finance les avortements avec des fonds fédéraux. Il y a quelques jours, après avoir été très 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 critiqué quand les médias ont rappelé qu'il était pour cet amendement.
Et donc, quel accueil il a reçu ?
Alors c'était un petit peu tendu juste avant son entrée sur scène, et d'ailleurs les organisatrices ont diplomatiquement rappelé au public qu'il était mieux de pas huer les intervenants, les candidats. Enfin, en tout cas, tout le monde l'a compris comme ça. Et donc il a été accueilli dans un silence studieux, peut-être un peu froid. Et surtout parce que ses explications n'ont pas été très claires sur ce revirement. Et ça, c'est pas de sa faute, mais au moment où l'organisatrice lui faisait remarquer qu'il n'avait pas été toujours très clair sur la question, il s'est défendu de façon un petit peu abrupte. Il avait l'air assez agacé, et donc il a commencé à dire « mais pas du tout, j'ai toujours voté en faveur du droit à l'avortement ». Et là-dessus, son micro s'est éteint. Donc c'est un problème technique, mais c'est très mal tombé parce que ça a rajouté à la confusion de sa réponse. Du coup, n'a pas convaincu, en tout cas, les femmes avec qui j'avais parlé avant et après.
Donc la course à l'investiture démocrate ne peut pas se jouer sur la question de l'avortement ?
Je ne sais pas si ça peut se jouer complètement sur l'avortement. En tout cas, ce sera certainement une question centrale, et c'est nouveau. La place centrale qu'a pris la question de l'avortement, le débat dans cette primaire, est assez inédite, dans le fait que plus aucun candidat n'essaie de l'éviter. Et on l'a vu avec le revirement de Joe Biden, il faut maintenant, pour tout candidat démocrate espérant remporter la primaire, soutenir sans détour le droit à l'avortement.
L'épisode 7, c'est fini. Un grand merci à Charlotte Plantive, Cathy Schubauer, Jérôme Cartillier et Elodie Cusin pour leurs histoires et leurs éclairages. À Brigitte Dussault, Hervé Rouache, Sébastien Blanc et Éléonore Sens pour le soutien. Et à Lucie Aubourg qui a fabriqué avec moi ce numéro 7. Si vous appréciez nos fragments d'Amérique, faites passer le mot. À très bientôt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.